La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Eh bien, dans notre aller-retour entre la chanson française et le jazz, certains auditeurs se sont demandé pourquoi nous ne parlions pas de Saint-Germain-des-Prés. Qu'ils se rassurent, la troisième émission là-dessus, la voilà.
Eh oui, c'était dans le programme, il ne faut pas être si impatient.
C'est tout juste si on ne s'est pas fait engueuler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait une chanson de Boris Vian qui dit « On n'est pas là pour se faire engueuler ».
Ah non, mais les gens nous l'ont dit très gentiment.
C'est vrai. Et bien, c'est vrai que dans ce que nous avons passé, c'est-à-dire Trenet, Brassens et quelques autres, nous n'avions jamais évoqué les morceaux de Piaf et dont celui qui a eu un destin jazzistique très important s'appelle...
La vie en rose. Alors, je crois quand même que beaucoup d'entre vous connaissent Piaf, mais là, je vais parler pour les jeunes générations, vous savez. Piaf, c'était une sorte de... Petit Moineau, d'ailleurs, c'était son surnom, puisque bien sûr, elle s'appelait pas du tout...
Elle s'appelait Gassion.
Oui. Et c'était une toute petite femme maigriotte, toujours habillée de noir, et qui a eu une popularité en France incroyable, et en Amérique.
Il faut dire qu'elle avait une voix absolument extraordinaire, surtout quand on la comparait à la petite carcasse dont elle sortait. C'était assez incroyable. Et... beaucoup de musiciens américains à qui nous avons montré Piaf sur scène nous ont fait le rapprochement avec les grandes chanteuses de blues des années 20. Finalement, ils nous ont dit c'est le même genre de tempérament, c'est le même genre d'histoire et c'est presque pour nous du blues à la française.
On va un peu résumer parce qu'on ne va pas parler toute la vie de Piaf, mais elle a commencé en chantant « Petite fille » dans les cours. Et ce n'était pas pour le plaisir, c'était vraiment parce qu'il fallait manger.
Ah oui, ça...
Voilà, c'était
gens,
simple.
C'est vraiment des gens qui crevaient de faim. Alors, elle a composé, en 1947, je crois, elle a composé une chanson qui s'appelait « La vie en rose ». Elle s'est fait aider pour la mettre en musique par un compositeur d'origine italienne.
Luigi.
Luigi, mais en fait, qui s'appelle Luigi Guglielmo. Et à qui on doit en particulier cerisier rose et pommier blanc, c'est vous dire.
Alors là, on vous parle d'un temps où nous, on était des petits gamins.
Hein. Ah bah écoute, cerisier rose, ben, on l'a quand même entendu chanter par beaucoup de monde dans notre environnement hein, quand on était petit.
Certes.
Car on chantait beaucoup. Et ce morceau créé en 47 a été un énorme succès, et il y en a une qui s'est mordu les doigts, c'est Marguerite Monod, qui l'avait trouvé au départ tellement niais qu'elle avait refusé de le signer.
Oui, elle a beaucoup regretté, financièrement en particulier.
Les Américains se sont emparés du morceau, et Lou Armstrong, très, très vite après sa création d'ailleurs, en a fait un disque mémorable, et l'a inscrit au programme de ses concerts.
Oui, Armstrong, il s'essayait à quelques paroles françaises, qui se résumaient en gros à « La vie en rose ». C'était à peu près ça.
Et là, nous le retrouvons sur scène, au bout du bout du bout du Canada, c'est-à-dire à Vancouver, pour un concert qui a été enregistré à l'époque et qui a atterri dans les bacs à disques par miracle, par hasard ou par nécessité, on ne sait pas très bien.
En live.
Here's a request for La Vie en Rose.
Mm-hmm.
the magic spell you gave, because you love me, I know. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes and see love and rose. When you press me to your heart, I'm in a world of love, where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday word seems to turn into love song. Give your heart and soul to me. Life will always be love and rose.
Est-ce que tu sais combien de fois en jazz on a enregistré La vie en rose ?
Oui, je le sais parce que c'est marqué sur ma feuille. 155 fois.
Alors nous n'avons pas résisté au plaisir de vous en passer une autre version, il n'y a vraiment que l'embarras du choix.
Eh bien, il s'agit d'Errol Garner qui va jouer La vie en rose.
Nous avons pensé que ça faisait un heureux contraste avec cet orchestre et ce vocal. Là voilà une version où personne ne chante, mais où le trio Garner est tout à fait à l'ouvrage. Et il a su garder pour ce morceau, moi je trouve, un tempo idéal. Vous verrez après la partie introductive, ce tempo est vraiment parfait. Errol Garner. pour passer d'Édith Piaf à Saint-Germain-des-Prés, nous avons trouvé l'idéale transition.
Encore quelque chose de Piaf. Ça va être l'hymne à l'amour. Mais celui qui le joue, Stéphane Grappelli, le violoniste, il va faire un petit medley. Il va commencer par l'hymne à l'amour. Et ensuite, eh bien, il va jouer les feuilles mortes. Hyper célèbre comme morceau aussi. Plus connu comme appartenant, si on peut dire, à Yves Montand. Mais en réalité, ça a été créé par quelqu'un d'autre.
Et nous allons venir dessus un peu plus loin. En tout cas, quand je disais idéale transition, nous passons de Piaf à Saint-Germain-des-Prés par la grâce de ce pot-pourri, de ce medley de Grappelli. Alors, il est accompagné de manière un peu bizarre. J'espère que les puristes amateurs ne nous en voudront pas trop, mais il n'y a pas d'autre disque de Grappelli où il joue ce morceau-là. Il y a un clavecin. Et le type s'appelle justement Clavecin.
Oui, ou il s'est fait appeler Clavecin, peut-être.
Faut-il y voir malice? Nous ne savons pas. L'histoire jugera. En tout cas, Grappelli, lui, au violon, il est vraiment formidable. Voici donc dans les feuilles mortes qui se ramassent à l'appel, comme chacun sait, et là nous allons vous en ramasser trois d'un coup.
C'est un morceau tellement célèbre qu'on ne pouvait pas ne le jouer qu'une fois. Hein.
Et est-ce que tu sais combien de fois on a enregistré les feuilles mortes en jazz?
C'est pas marqué sur ma feuille.
Eh bien, 1397 fois.
Ah oui,
au moment où nous vous parlons, d'ailleurs.
Quand même.
Ça va continuer, hein. Ça va continuer. Et nous avons trois versions très diverses et que nous allons vous passer à la file. Nous nous retrouverons au bout d'un certain temps. Ces trois versions successives que nous allons vous passer vont vous montrer à quel point on peut faire des choses variées avec ce morceau-là. Alors ça commence en France, à Marciac, en public, avec...
Birelli Lagrène.
Une de nos gloires nationales.
Birelli Lagrène, c'est un personnage... il est jeune, hein. Il est étonnant. Virtuose complet de la guitare, et puis il peut jouer comme ça, partir. On a l'impression qu'il est dans son monde quand il joue.
C'est exactement ce qui va se passer là. C'est même très, très étonnant par moments. Et nous avons un accompagnement de batterie qu'il faut souligner, parce que André Ceccarelli, c'est vraiment certainement un des tout meilleurs batteurs français.
Oui, Beverly Lagrène, il y a une mentalité par rapport à la musique qui est souvent un peu étonnante. Il s'y jette.
Ça, pour s'y jeter, il s'y jette. Alors après ça, nous allons rencontrer d'autres gens qui s'y jettent. Il s'agit de Jack McDuff, l'organiste, et de Jimmy Forrest, le saxophoniste ténor. Il y a aussi un vibraphoniste dans le disque. Alors ce Jimmy Forrest, qui est un personnage tout à fait hors série, ne serait-ce que parce qu'il mesurait plus de 2 mètres et qu'il pesait plus de 130 kilos, c'était un saxophone ténor colossal.
Oui, il ne fallait pas le contrarier, hein.
Non,
je vous le
pas
dis.
Du tout. Et il revendiquait d'ailleurs un comportement pantagruélique, parce qu'il connaissait Rabelais, Jimmy Forrest, figure-toi. Ce Jimmy Forrest est un saxophoniste ténor tout à fait remarquable, qui a tout pour lui, une technique irréprochable, une puissance et un swing vraiment tout autant irréprochable. Et malheureusement, pour lui, je trouve, malheureusement, c'est un type dont on n'a pas assez parlé. Peut-être parce qu'il était trop impressionnant, on va savoir.
Et la troisième version va être celle de Duke Ellington, où on va avoir un vocal d'un certain Ozzie Bailey. Mais alors surtout, derrière, et même un peu devant, il y a le merveilleux violon de Rainance. Ah, vous allez voir, c'est trop beau, comme on dit dans les petites catégories de classe.
Oui, c'est magnifique. Ce que fait le violon de Rainance dans ce morceau, à l'accompagnement, comme en solo d'ailleurs, c'est absolument merveilleux.
Voici donc les 3 versions des Feuilles mortes.
Et il n'y a pas que 3 feuilles mortes à ramasser. Il y en a des choses là-dedans. Thank you.
C'est une chanson. Qui nous ressemble toi tu m'aimais et je t'aimais nous vivions tous ensemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais, mais la vie sépare. Ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable, les pas des amants the summer kisses.
those sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long and soon I'll hear old winter's song, but I miss you most of all, my darling. When
nous avons ramassé beaucoup de feuilles mortes à l'appel.
Ce morceau, c'est Yves Montand qui l'a vraiment popularisé, mais ce n'est pas lui qui l'a chanté le premier. C'est Cora Vauquer, qui était tout à fait connue à l'époque, mais beaucoup moins que Yves Montand quand même, qui l'a créé en premier. Elle a été assez blessée parce que Yves Montand, il ne se gênait pas, il disait « oui, c'est moi qui l'ai créé », tout ça. Voilà. Dans ce milieu de Saint-Germain-des-Prés, qui était finalement un très petit milieu où tout le monde se connaissait, mais où énormément de Parisiens venaient voir. Ils y venaient un petit peu, je ne dirais pas comme aux zoos, on ne va pas exagérer, mais c'était spécial. On venait parce qu'il y avait un esprit Saint-Germain-des-Prés. On a parlé de Juliette Gréco, on a parlé même de Piaf, on a parlé de... Et il y avait quelqu'un qui était un peu à part. C'est un certain Mouloudji.
Ah oui, chanteur, acteur, très très connu à l'époque.
Oui, 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 un peu perdu de vue maintenant. Hein.
Ah quand même, le coquelicot de Mouloudji, je suis sûr que Radio Marjorie le passe de temps en temps.
Oui, c'est tout à fait vrai, c'est ce qui est resté de Mouloudji, honnêtement. Et c'était un très bon chanteur.
Et il a créé un morceau qui s'appelait « La complainte des infidèles ». Et cette complainte des infidèles, en fait, c'est une sorte de valse. Et l'orchestre d'André Réveliotti, qui accompagnait à l'époque Sidney Bechet, a proposé ce morceau à Bechet.
Qu'il l'a aussitôt accepté parce qu'il le trouvait vraiment beau. Et puis, vous savez, Bechet, c'était quelqu'un qui avait le sens du public. Et il a tout de suite senti que là, il pouvait en faire quelque chose.
Et il en a fait quelque chose, parce que ce disque s'est très bien vendu, le disque de Bechet. Sans doute même mieux que celui de Mouloudji. Mais comme ça commençait par une valse et que ce n'était pas du tout ce que souhaitait Bechet, il a décidé de commencer son disque, son enregistrement, par une sorte de gag. Et quand vous allez entendre le début de ce qui va passer, vous allez vous demander s'il s'est fait un copain ce jour-là. C'est pas sûr.
Hey, hey, what is that?
Mais pourquoi, Sidney?
Mais qu'est-ce que c'est que ça, tu jouais là, mon vieux?
C'est la complainte des infidèles.
Je veux jouer le même morceau, mais dans le style de New Orleans. Écoute.
One, two.
Thank you.
naturellement, il est impossible de ne pas évoquer dans cette émission
consacrée à Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian.
Le seul et unique Boris Vian, écrivain et trompettiste.
Ah oui, alors, lui, c'est un écrivain absolument emblématique de cette époque-là.
Pensons à L'écume des jours, dont on a fait un film il n'y a pas très longtemps. Pensons d'ailleurs qu'il disait volontiers, plus tard, du jazz, il ne restera que Duke Ellington et la musique de la Nouvelle-Orléans, parce que le reste est laid. Je trouve qu'il était un peu loin dans l'appréciation, mais enfin, il avait quand même des idées.
Oui, c'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots et qui était quand même considéré absolument comme le rebelle.
Bon, c'était aussi à la fois son image de marque et un peu son fonds de commerce, peut-être.
Oh, certainement.
Le dire comme ça.
Pas idiot, hein, Boris
Vian. Il avait totalement oublié d'être bête. Alors, il a composé des chansons, souvent humoristiques. Et en voici une qui est totalement jazzifiée, puisqu'il s'agit de l'orchestre de Claude Bolling. L'orchestre de Claude Bolling, à cette époque-là, comportait déjà son équipe célèbre avec Gérard Badini à la clarinette, qui fait un peu le pitre dans le morceau qui suit, d'ailleurs, et Claude Gousset au trombone, etc. Mais le morceau qui suit, c'est bien un morceau de Boris Vian, il s'appelle
« Oh, c'est divin ». À l'époque, c'est une manière assez amusante de se moquer des personnes un peu précieuses, un peu prout-prout, vous voyez.
Eh bien, Marie-Chantal.
Et représentée, effectivement, voilà, par Marie-Chantal, et qui disait « Oh, c'est divin ». Alors là, il se jette dans cette histoire-là, il se moque, il rit, ils sont nature.
Ils ont très nature et il y a toute une conversation autour du piano qui ne manque pas de sel.
C'est si bien, c'est si bien, c'est divin, c'est divin. C'est divin, c'est divin. C'est si fou, c'est si fou. C'est si doux, c'est si doux.
C'est bien.
C'est
petit pianiste est vraiment plein d'appui.
Vous avez vu ces trilles et cette main droite?
Oui, c'est.
Ah, la gauche aussi. Oui. Ah, bah, c'est bien quoi. En un mot, c'est divin. Ah, c'est divin, 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 divin.
Formidable.
Oui, mais ah.
Naturellement, nous n'allons pas quitter Boris Vian comme ça. Voici un autre morceau qui s'appelle...
Ah, si j'avais un franc 50.
Alors ça, c'est un morceau qui, évidemment, plaît beaucoup aux Auvergnats. Parce que, quand même, l'Auvergnat, qui monte à Paris. Tout son art est de transformer un franc 50 en 100 sous, et c'est exactement ce que raconte cette chanson.
Eh bien, vous allez l'entendre par un groupe dont le nom est particulièrement évocateur, puisqu'il s'appelle le groupe La La La.
Voilà, ou La 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 La, ça...
Comme on veut.
Ouais, il y a des variantes. Ce sont de jeunes Lyonnais qui quand même ont un public tout à fait international maintenant. Ils ont une dynamique assez phénoménale et ils ont rendu vie à cette chanson qu'on avait un peu oubliée. Donc, ah, si j'avais un franc 50. Dans une manière assez délirante de faire les choses, mais pleine de dynamisme. Et qui a donné lieu à une vidéo que vous pourrez voir sur Internet si ça vous chante. C'est le cas de le dire.
Si ça vous chante la la la.
Les voici. Et pour moi, ils méritent quand même beaucoup plus qu'un franc 50.
Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça me ferait bientôt 100 sous.
Boris Vian, mais il faut savoir que Boris Vian, il chantait et jouait de la trompette, très bien d'ailleurs. Eh bien, c'est dans ce morceau-là...
Le même.
...que vous allez entendre Boris Vian.
Boris Vian soi-même qui chante. C'est un enregistrement très court où Boris Vian joue un chorus à la trompette. Et on se rend compte qu'il jouait vraiment avec une technique tout à fait au point, parce qu'il y avait de l'attaque et du phrasé, hein, vous allez entendre ça. Et peut-être d'ailleurs c'est de la trompinette.
La trompinette, c'est un instrument assez particulier, hein. On n'en entend pas beaucoup parler.
Ah, c'est bizarre. Alors il faut savoir que la trompette, c'est un instrument qui fait une boucle sur lui-même et qui a une longueur de tube bien définie. Que le cornet à piston part de la même longueur de tube avec une boucle en plus, si bien qu'il est plus ramassé. Et que la trompinette, c'est encore un pas vers la compacité, parce qu'il y a plus que deux boucles, là je ne sais plus combien il y en a, et c'est tout rond, avec un pavillon d'un côté et une embouchure de l'autre, et les mêmes trois pistons, la même longueur de tube, le même registre, tout. Mais alors, j'ai essayé une trompinette un jour, ça m'a paru d'une très grande raideur. Alors c'est pour ça que je pense que Boris Vian, dans le disque que nous allons entendre, jouerait plutôt de la trompette. En tout cas, c'est lui qui aura le dernier mot avec sa trompette. Et ça s'appelle toujours...
Oh, si j'avais un franc 50!
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.